Voilà, merci beaucoup, merci pour votre invitation. Je vais essayer d'être assez bref, de manière à récupérer un peu le temps pour la suite de votre après-midi. Donc, je vais essayer assez rapidement de vous dresser le tableau assez complexe de la réalité de la structuration des soins en Suisse. Et peut-être plus particulièrement, peut-être ne pas répéter nécessairement ce qui a été dit pour l'histoire du secteur, l'histoire de la désinstitutionnalisation. Je pense que ça, c'est une tradition qu'on partage dans la plupart des pays européens, dans les grandes lignes, mais peut-être se focaliser sur quelques particularités du modèle suisse. Alors, peut-être dire qu'il n'y a pas un, mais plusieurs modèles suisses. La Suisse est un pays fédéral, c'est un pays qui est formé par 26 cantons. Donc, les budgets de la santé, et une partie de mon exposé aura un référentiel autour de cela, c'est-à-dire de l'équilibre entre le type de soins qu'on donne et le type de financement dont on bénéficie. Le financement donc, de la santé en général, c'est une aventure cantonale. Donc, la structuration des soins et les différents systèmes de soins sont organisés à un niveau cantonal, bien sûr avec quelques grandes orientations, comme vous allez voir plus loin, qui sont garanties par les législateurs sur un plan fédéral. Il y a 5 centres universitaires, donc hospitaliers universitaires avec une ambition de couvrir essentiellement des mandats de cliniques, de recherche et d'enseignement, et plus de 50 centres de formation régionaux, donc pour un petit pays, puisque finalement, bon, comme vous pouvez bien imaginer, je ne suis pas nécessairement autochtone, comme mon nom l'indique, donc je suis un des multiples immigrés dans ce pays, dans une ville qui compte environ 30% de professeurs de l'université étrangers, donc je suis un parmi eux. Et vous dire cependant que pour un petit pays, c'est un nombre, donc 5 à 6 millions d'habitants pratiquement, vous avez un nombre de centres de formation extraordinairement important. Avec une très faible présence du secteur privé, et c'est une chose dont on n'a pas parlé nécessairement, ou je n'ai pas entendu en tout cas au début de la matinée, l'équilibre entre privé et public. En Suisse, il y a un très grand investissement du domaine public, et pour certains cantons, il y a même une interdiction d'affaires des hospitalisations dans un domaine autre que public. Donc, vous voyez là qu'on a 88% de la masse des prestations sont garanties par le secteur public et seulement 12% par le secteur privé en psychiatrie. Il y a un nombre de lits, on a beaucoup parlé des lits. Les lits dépendent beaucoup aussi de l'orientation sociale, de la tolérance aussi du milieu. C'est une histoire assez complexe en Europe. En Suisse, traditionnellement, il y avait, malgré les grands efforts de désinstitutionnalisation, un très grand nombre de lits, mais avec, comme vous voyez, des fluctuations importantes, donc 1,3 lits pour 1000 habitants en psychiatrie, donc très important, mais vous voyez la fourchette qui va de 0,2 à 1,7, et il y a des différences qui sont aussi des différences d'orientation linguistique. Une grande demande en ambulatoire, 167 000 cas en ambulatoire répertorié en photographie, mais seulement 8 700 cas en hôpital de jour. Et vous voyez là les prévalences des hospitalisations, des admissions en hôpital de jour et des suivis ambulatoires. Sans aller dans le détail des chiffres, dire que finalement c'est un système qui fonctionne avec un assez fort pôle, quoique diversifié sur le plan hospitalier, donc avec un modèle qui se rapproche à l'Allemagne, et un assez fort sectoriel, un certain fort pôle sectoriel qui pourrait ressembler assez à une partie du modèle français et pour les suivis ambulatoires et le parent pauvre du système qui étaient en tout cas jusqu'à récemment les hospitalisations et les hôpitaux de jour. Qu'en est-il des durées médianes de séjour? Là aussi, vous avez quand même, j'étais quand même assez content de voir des chiffres qui ont été donnés par mon collègue Aglais aussi. Et globalement, c'était considéré un pays avec des séjours hospitaliers relativement plus longs. Alors, ça a beaucoup changé les dernières années. La durée médiane, c'est de 18 jours, avec des différences très importantes. La plus basse, c'est à Genève, où on a 9 jours d'hospitalisation en psychiatrie publique en médiane. Et bien sûr, vous avez des cantons en Suisse centrale, avec une tradition très différente, des cantons aussi avec une tolérance, finalement, par rapport à la présence de la maladie mentale de la cité moins importante, où on va jusqu'à 30 jours. Et il y a eu, comme dans les autres pays, je ne vais pas m'étendre là-dessus, comme ce que vous avez entendu le matin, un très fort développement des structures ambulatoires publiques, cependant sans lien avec une diminution des lits. C'est des phénomènes qui étaient temporellement, je dirais, assez indépendants. On s'est retrouvé dans différents cantons avec par moments un grand investissement pour l'ambulatoire et à d'autres moments des fermetures ou pas des lits. Et ce qui donne un patchwork assez intéressant, donc comme je dis souvent, et c'est l'expérience je pense qu'on partage tous, dans un hôpital psychiatrique classique, vous ouvrez une unité, le lendemain elle est pleine, dans un hôpital psychiatrique, vous fermez une unité, le lendemain le taux il est à peu près similaire. Donc vous ne pouvez pas faire une équation si évidente entre offre et demande de soins. 25% d'augmentation des coûts ambulatoires les derniers 7 ans pour la Suisse dans son entier, pour la psychiatrie. Plus intéressant, c'est le nombre des usagers. Quel est le pourcentage de la population suisse qui demande une consultation? Vous voyez que les chiffres sont quand même assez élevés. Il y a environ 6,5% des femmes et 3% des hommes suisses sont suivis régulièrement par la psychiatrie privée ou la psychiatrie publique. Et le coût hospitalier représente 3,4% du budget total de la santé. Pour l'ambulatoire, c'est 1,4%. Donc, en cumulé, on pourrait dire on est aux alentours de 5%. Cependant, la vérité est un peu différente. Si vous allez sur les centres universitaires, on est plutôt sur les 10 et 12%. Et j'ai ajouté que les pourcentages sont très trompeurs, parce que ça dépend évidemment quelle est la masse de l'argent investi. Donc, je l'ai partagé avec les personnes qui étaient autour de moi lors du repas. Pour une personne qui est pour chaque habitant, l'équivalent de l'investissement en termes d'argent pour la psychiatrie publique à Genève est aux alentours de 190 à 200 euros. Donc, évidemment, vous avez des pourcentages qui peuvent paraître faibles ou relativement stables par rapport aux moyens européens, mais avec des disparités en termes de nombre total. Allons plus loin pour l'hospitalisation. Donc, l'hospitalisation, à la partie romande, est un monopole public. Donc, c'est organisé par le public. Les lits privés représentent moins de 20% du nombre total en Suisse alémanique, mais vont jusqu'à 50% pour la partie italienne. Donc là aussi, différence des cultures, différence de rapport avec le privé. Et je voulais insister sur un point, on a relativement peu parlé également, c'est normal, puisque si on se réfère au modèle français, ça peut être beaucoup plus balisé, mais le système assécurologique, le système de paiement des actes est très différent en Suisse par rapport à ses voisins européens, puisque c'est plus proche d'une adaptation du système américain. Vous avez donc des assurances privées, les Suisses ont voté les derniers 5 ans à 2 reprises, ils ont voté contre, même massivement contre, l'introduction d'une sécurité sociale. Entre autres, par peur d'une augmentation des impôts très importante. Donc, ils ont gardé un système qui est un système d'assurance privée, mais avec qui ne dépend pas de l'emploi, et ça, c'est la différence par rapport aux États-Unis, mais avec un catalogue de prestations qui est imposé sur le plan fédéral pour l'assurance de base. Donc, tous les individus doivent avoir une assurance de base avec un catalogue de prestations. Et je vous assure que si vous jetez un coup d'œil à ce catalogue de prestations, vous serez tout à fait étonné de voir l'ampleur de la couverture. Donc, ceci pour la psychiatrie a une importance, pas tellement pour les soins de base qui sont couverts comme dans d'autres pays européens, mais pour notamment la dimension psychothérapeutique. Je vais revenir sur ça puisqu'il y a une très bonne couverture pour les soins psychothérapeutiques. Les complémentaires, évidemment, pour les soins privés, pas différents nécessairement du reste de l'Europe, et un assez faible développement des réseaux de soins. La notion du réseau de soins n'est pas nécessairement dans le mœurs helvétique, même pas la partie albanique. Quelle est l'analogie du financement? Et ça nous pousse aujourd'hui à repenser les structures, notamment les secteurs et les territoires. C'est l'analogie 45-55, c'est-à-dire les assureurs privés doivent couvrir 55% de nos dépenses, l'État subventionne 45%. Ça devrait être notre situation. En réalité, pour la psychiatrie, contrairement à la chirurgie, et on se retrouve à des pourcentages qui sont beaucoup plus de l'ordre de 70-30 de subventionnement de la part de l'État. Ce qui explique aussi le pourquoi il y a un poids politique très important sur l'organisation de soins en psychiatrie. Très bonne couverture donc pour la psychothérapie comme une autre particularité. Alors, autre particularité peut-être à signaler, des choses qui n'ont pas nécessairement été dites avant, un investissement très fort de la formation post-grade qui est un travail d'artisan, finalement, en Suisse, 6 ans avec un double titre de spécialité en psychiatrie et psychothérapie. Vous voyez que vous arrivez jusqu'à environ 6% du budget des hôpitaux universitaires dédié uniquement à la formation des jeunes médecins. Donc, il y a un accent très fort, un 10% du budget hospitalier qui est donné pour la recherche et l'innovation au milieu universitaire. Donc, ces deux pôles sont des pôles qu'il faut les prendre en considération quand on pense à l'organisation du système de soins, parce que c'est des pôles très investi du point de vue financier également. Il y a eu, et ça je pense est valable pour la plupart des pays européens, peu de recherches évaluatives sur nos systèmes, que ça s'appelle secteur, que ça s'appelle hospitalisation à domicile. On a peu de recherches évaluatives, mais les dernières années, il y a eu une floraison dans tous les centres
universitaires, des quality officers, des représentants qualité avec un mandat sur l'évaluation des systèmes de soins. Et l'attachement traditionnel au secteur, alors un secteur qui est un peu revisité, c'est-à-dire un secteur avec une plus grande mobilité. En réalité, c'est un secteur avec des interventions dans le milieu en Suisse romande. Et évidemment, ça, c'est d'une part un peu plus simple, parce qu'on parle des endroits où les déplacements sont, dans les villes en tout cas, relativement plus simples, de pouvoir le faire à un temps qui est compatible avec la journée. En même temps, c'est obligatoire, parce qu'il y a certains cantons en Suisse où si vous n'allez pas vers les individus, les individus ne vont jamais venir vers vous. C'est, l'accès n'est pas tout évident, notamment si vous allez sur certains cantons et des vallées, vous devez pouvoir être mobile, et les psychiatres sont mobiles dans ce contexte. Je dirais que là-dessus, à côté de ça, il y a un autre pôle, qui est le pôle de la cité hospitalo-universitaire, c'est-à-dire l'investissement sur, et c'est très visible en Suisse albanique, où, comme ça a été dit par une intervenante en passant sur le modèle allemand a gardé quand même un nombre de lits globalement plus important, mais avec cette optique de développer une recherche de qualité dans le domaine des neurosciences, entre autres. C'est-à-dire, c'est notre héritage ancien de neuropsychiatrie que les Allemands ont gardé très vivant. Et il y a une partie de la Suisse qui a gardé quand même une grande tradition. Il y a des centres de neurosciences très compétitifs, intégrés dans les hôpitaux psychiatriques, notamment en Suisse albanique. Le passage du secteur à la région, comme j'ai dit, est limité par la langue. Ce n'est pas nécessairement la même chose. Quand on parle des régions, en réalité, on devrait parler en Suisse beaucoup plus de cantons. Et les structures cantonales est aussi, mais aussi par des visions qui peuvent être fondamentalement différentes de certains enjeux. Et je voudrais juste citer trois enjeux qui sont des enjeux d'actualité pour nous, et je pense pas seulement pour nous. Alors, c'est évidemment la performance économique qui est devenue quelque chose de beaucoup plus important en période de crise. Il serait faux de penser que, mis à part comme moi-même, quand je suis arrivé en Suisse, je pensais que c'est le chocolat, les vaches, c'est l'argent qui coule. Et en réalité, la situation est un peu plus nuancée quand même. Donc, et la crise est aussi là, les diminutions des budgets sont aussi. Donc, évidemment, une nécessité de rigueur. De l'autre côté, le rapport avec la proximité, c'est-à-dire ce travail avec la ville, avec les associations à l'extérieur, c'est un travail qui peut se faire parfois beaucoup plus facilement, parfois plus difficilement. Et en Suisse, vous avez un exemple globalement du plus grande réticence dans ce contexte. En même temps, un investissement sociétal pour traiter la maladie mentale, en même temps, une certaine réticence de la voir circuler en ville, pour le dire de manière plus brutale peut-être. Troisième élément, c'est la sécurité. Alors, ça, je pense que je ne dirais pas qu'elle a été contaminée par nos voisins, mais la question et l'interrogation autour de la sécurité, de la dangerosité. Enfin, vous avez entendu certains des récents événements en Suisse sur ce dossier, mais la dangerosité de certains patients psychiatriques, le rapport avec le crime et la criminalisation est aujourd'hui à l'ordre du jour et implique aussi de repenser les structures de soins qu'on a à disposition. Alors, prenons peut-être l'exemple de Genève, qui est assez frappant dans ce contexte, mais qui n'est pas nécessairement représentatif de la réalité suisse. Vous voyez déjà une particularité qui frappe énormément. On a environ un psychiatre pour 150 habitants. Ça paraît énorme, évidemment, vous savez. Si vous voyez les moyens de l'OMS, et si vous voyez, je fais une expérience dépersonnalisante une fois par an quand je vais enseigner au Cameroun, je me retrouve à Yaoundé où il y a un psychiatre pour 1 million d'habitants. Enfin, bon, la situation n'est pas nécessairement comparable. Mais pourquoi? Pourquoi il y a autant? Il y a autant parce que la psychiatrie privée, en grande partie, est couverte par les assureurs. Donc, c'est couvert par un accord qui est d'accord tacite sociétal qui fait que certains actes, notamment de psychothérapie, sont très bien remboursés. Ça, c'est la différence. Il y a cependant des similitudes. C'est-à-dire, vous voyez à peu près combien de lits de secteurs on a. On a environ 150 lits pour les 4 secteurs, avec, bien sûr, un grand nombre de consultations par an et 4500 admissions par an avec un taux de réadmission. Un facteur qu'on oublie souvent, mais qu'il faut quand même signaler dans un hôpital psychiatrique, le taux de réadmission, qui est à 5% dans les 3 mois, donc relativement maîtrisé pour les usagers qu'on a. Alors, peut-être qu'on peut dire aussi qu'il y a quand même des investissements budgétaires, donc c'est un investissement important qui est fait par la communauté, et attachement à la logique du secteur. Ils sont 4 secteurs en fonction des régions socio-sanitaires, avec toute la palette de soins, et avec des lits de très courts séjours dans la communauté. Alors, il faut dire que, je le disais aussi avant, lors du repas, et un pari qui est pas seulement, c'est la présence assez forte de la psychiatrie à l'hôpital général. Et ceci a permis d'éradiquer un problème des années 90, c'est-à-dire l'augmentation brutale, importante du nombre des entrées à l'hôpital psychiatrique. Ça nous a permis aussi de diminuer massivement le nombre de lits jusqu'à un certain plafond tout de même. La présence donc de 27 lits à l'hôpital général qui accueillent les premiers venants, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas eu de contact avec la psychiatrie, s'ils ont besoin d'hospitalisation, ils n'entrent pas dans les circuits classiques psychiatriques. La gestion s'est faite dans les 10 jours pratiquement à l'intérieur de l'hôpital général avec une forte présence double, c'est-à-dire des spécialistes somaticiens et psychiatres dans une plateforme qui a été organisée. Et c'était un grand gain pour la, aussi pour la vie du secteur qui vient en aval. Alors les points forts en résumé, les points faibles, juste avec une vision que je vais voir la plus neutre possible, peut-être parce que effectivement ce n'est pas nécessairement l'ancrage culturel du lieu, c'est que c'est un système qui est richement doté au niveau de la crise. Il y a eu un investissement pour la gestion de très courts séjours à l'hôpital, mais aussi la présence de la communauté. Et par contre, dans ce contexte-là, des structures d'avant-garde ont été développées, surtout pour des populations vulnérables très spécifiques. Les soins spécialisés se déclinent très bien. Vous avez probablement entendu parler, typiquement des domaines comme l'addictologie, comme le domaine de soins pour les personnes âgées. Il y a un investissement en Suisse qui a porté ses fruits. Donc c'est plutôt un investissement dans des populations vulnérables précises ou encore pour les troubles envahissants au développement. Les secteurs de mobilité accrue, c'est pour les GG vulnérables. Ça, c'est davantage avec une tradition d'intervention infirmière. Alors, il y a un investissement politiquement accepté sur la formation et la recherche, ce qui n'est pas le cas partout en Europe. Et la présence de trois lignes, premier recours, référent, soit sous spécialité, sans une friction majeure. Ce n'est pas une loi pas idyllique, mais c'est une coexistence relativement bonne. Et l'implication, vous voyez, il y a plus de 80 unités de psychiatrie dans les hôpitaux généraux en Suisse. Il y a cependant certaines points qui pèsent très important, c'est-à-dire la rareté des hôpitaux de jour et surtout de ce que vous décrivez. Et puis, on ne peut qu'être en peu de certains systèmes européens de ce point de vue. Je parle aussi de ce point de vue. C'est que les foyers, les structures intermédiaires à orientation sociale sanitaire sont très faibles. Sont beaucoup plus faibles en Suisse. Si vous imaginez l'ampleur d'investissement financier, vous avez bien moins de développement de cette structure. Alors, malgré les dimensions de l'hôpital, malgré les structures très courtes, l'hôpital reste une forte référence influencée par un modèle allemand. Et il y a une multitude de modèles avec une exposition politique qui n'est pas des moindres en lien avec le financement de la psychiatrie. Et évidemment, il y a ces deux logiques, c'est-à-dire en même temps, investissement de la société, intérêt pour la santé mentale, défense de la psychothérapie. Mais en même temps, une certaine allergie de voir certains des usagers à l'extérieur. Je dois dire que le nombre de téléphones qui arrivent jusqu'à moi, par des gens de la communauté, souvent des responsables politiques, en disant « mais comment c'est possible qu'un tel se retrouve dans le tram ?» Donc, vous voyez, c'est des choses, ça peut être la misère de tous les jours, mais ça signe bien le fait qu'il y a un décalage entre une logique d'investissement financier et que je qualifierais volontiers quand même de l'investissement fort, c'est-à-dire la bienfaisance, mais à condition que ceci va de pair avec une certaine régulation sociale qui neutralise la présence de la cité. Je veux dire, en faisant un résumé aussi puisse être relativement représentatif. Alors, évidemment, étrangers qui viennent de la communauté européenne, notamment pour leur formation. Une distribution évidemment inégale, je l'ai entendu avant, évidemment gravement inégale des psychiatres privés. Je vous parle des 450 psychiatres majoritaires, mais si vous allez à la campagne, les chiffres se retrouvent à 2, 3, 10. Donc évidemment, vous avez c'est un animal de ville, ça a été assez bien dit. Et un support social acquis au niveau du remboursement et peut-être de la psychothérapie et évidemment la volonté de garder un système qui, loin d'être parfait, a la tendance. En finissant, peut-être rapidement ces survols, il y a pas même plusieurs exemples qui sont le fruit. Je dirais que ça nous apprend aussi l'humilité. Il y a plusieurs exemples, on n'a pas nécessairement le bon exemple, et je pense que personne ne peut dire qu'il détient le bon exemple. C'est un fruit parfois des compromis entre des expériences culturelles, des référentiels historiques et des orientations conceptuelles. Alors, il y a des choses qui ont bien réussi, notamment au niveau de la formation et de la recherche par rapport à la psychiatrie. Il y a des éléments qui ressemblent un peu à ce que vous avez, qui a été décrit le matin par rapport au secteur, avec probablement une plus grande mobilité. et même cependant, de l'autre côté, une approche de cité hospitalière qui reste un point d'ancrage, notamment au lien avec les neurosciences. Alors, c'est vrai aussi qu'il faut avouer que, de côté, la planification sanitaire en Suisse est résolument orientée vers le précoce séjour. On a de la peine à imaginer gérer la chronicité de la communauté. C'est ça que je veux dire par là. Et le dernier élément, c'est que, pour coûteux qu'il puisse être le système assurologique, pour la psychiatrie, il est, pour le moment, très protecteur pour certains aspects. Je veux dire, ça, il faut quand même imaginer que certaines choses ont pu être faites à cause de pacte social. Je vous donne un exemple en terminant juste là. À un moment, ça s'est posé la question, est-ce que de l'assurance de base, on pourrait enlever la psychothérapie du catalogue de l'assurance de base? Quand on dit être dans l'assurance de base, ça veut dire que pratiquement un individu peut faire une psychothérapie en raison de 2 fois par semaine pendant 2 ans et l'assurance couvre. Et à un moment, au niveau des économies, ils ont dit, on peut enlever ça. Alors, il n'a même pas fallu de faire un référendum. Ils ont fait une enquête d'opinion. Il y avait 85% de la population qui était résolument contre ceci. Évidemment, en Suisse, avec l'arme de référendum, ça aurait été une pierre tombale de faire cette modification. Avec la démocratie directe du lieu. Je m'arrête là en vous remerciant.